Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et bienvenue dans cet accent très estival. L'année 2016 verra-t-elle enfin la fin d'un des plus anciens états de guerre en Europe, au nord de l'île de Chypre, 300 000 habitants et un état reconnu uniquement par Ankara, au sud, 900 000 habitants, membres de l'Union européenne que seul Ankara ne reconnaît pas, et cela fait plus de 40 ans que cela dure. Mais depuis le printemps 2015, les deux autorités se sont rapprochées et ont ouvert de vraies négociations pour la réunification de l'île. L'ONU s'est félicitée de progrès significatifs, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Et c'est le reportage d'Alexis Rosenzweig.
L'état est arrêté ici. On est à la plage de Famagouste. On est jusqu'à les limites où on peut aller. On voit la partie touristique, en fait, de Famagouste avec les hôtels. Il y a des barrières pour ne pas regarder, parce que la honte est des communautés, 42 ans, c'est comme ça.
Originaire de Famagouste, Nikos Karoulas a dû quitter la ville à 15 ans avec sa famille, comme tous les Chypriotes grecs, en 1974, suite à l'invasion de l'armée turque en réaction à un coup d'État à Nicosie. Depuis une dizaine d'années, Nikos revient régulièrement dans sa ville natale pour participer à des initiatives bicommunautaires, rencontrer ses nouveaux amis chypriotes turcs et jeter un coup d'œil furtif sur son ancien quartier de Varosha, resté depuis son départ un quartier fantôme.
C'est devenu une obsession de deux côtés. Les côtés grecs qui veulent absolument que ça revienne dans les mains des chypriotes grecs, et les chypriotes turcs ou la Turquie qui pensent que c'est un truc assez important. C'est un élément clé, bien sûr.
Varosha est un sujet à nouveau âprement discuté dans les négociations actuelles, mais ce n'est finalement pas le plus problématique. La question du retrait total des soldats turcs, le partage du pouvoir, la restitution des propriétés ou les indemnisations aux expulsés, autant d'obstacles majeurs qu'il reste à surmonter. Mais la constellation politique n'a jamais été aussi favorable avec deux présidents des deux côtés de l'île qui sont de la même génération, originaires de la même ville, et surtout déterminé à trouver un compromis. L'avocate Emine Çolak est l'ancienne chef de la diplomatie de Chypre Nord.
Cette fois, il y a beaucoup de facteurs internes et externes qui rendent une solution possible. Nous sommes donc prudemment optimistes. Reste qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à la table des négociations sous l'égide de l'ONU. Il faudra aussi convaincre l'opinion publique et pour notre part, il faudra nous préparer à faire partie de l'Union européenne. Mais si nous conservons ce rythme et l'intérêt de la communauté internationale, je pense qu'il est possible de parvenir à une solution.
Au carrefour de trois continents, Chypre est revenu récemment au centre de l'attention avec la crise migratoire et l'accord entre l'Union européenne et la Turquie pour tenter de la résoudre. Les Chypriotes grecs ont menacé de bloquer, comme ils bloquent une potentielle adhésion de la Turquie à l'Union. Finalement, plusieurs gestes de bonne volonté semblent là aussi aller dans le sens d'une potentielle solution au problème chypriote, 12 ans après l'échec du référendum côté sud qui avait mis fin aux espoirs de réunification. Les choses ont changé depuis, estime Costa Pavlovitch. Il est l'ancien rédacteur en chef du quotidien Cyprus Mail.
Je pense que si ça ne se fait pas maintenant, ça n'a plus beaucoup de sens. Donc, plus le temps passe, déjà il y a énormément de temps qui est passé depuis 1974, plus les situations deviennent de plus en plus figées, plus la situation démographique côté turc change. En faveur d'un rattachement à la Turquie, parce que la population turc-cypriote autochtone finira par devenir minoritaire, avec les colons turcs qui viennent, qui s'établissent et qui deviennent éventuellement des gens de deuxième, de troisième génération, donc qui établissent des racines. Donc une démographie qui change au long terme et une mémoire de la vie collective qui s'oublie au fur et à mesure. Donc je pense vraiment que si ça ne se fait pas maintenant, alors sans doute que ça ne se fera pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est gagné d'avance.
Effectivement, rien n'est encore joué. Et hors micro, dans les discussions de café où les hommes jouent au backgammon, au nord comme au sud, il est assez évident qu'au-delà de tous les enjeux géostratégiques, il va falloir s'employer à régler les moindres détails. Les Chypriotes turcs plus laïque, ne voit qu'avec peu d'enthousiasme la construction de nouvelles mosquées financées par Ankara. Les Chypriotes grecs ont quant à eux parfois du mal à envisager de changer les couleurs du maillot de leur équipe nationale de foot, ou même tout simplement leur hymne national, qui sont les mêmes qu'en Grèce. Retour à Famagouste, là où Nikos espère pouvoir un jour revenir sans avoir à montrer ses papiers d'identité à la frontière.
Je pense que c'est le moment ou jamais d'avoir Chypre de cette façon. Je pense qu'il y aura une réaction de la part des gens de Famagouste, surtout de Famagouste. On ne va pas accepter d'être en attente sans participer à quoi que ce soit. On ne comprend pas grand-chose pourquoi ça doit être si formel pour les gens qui sont du même pays, même culture. On n'a pas grand-chose qui nous sépare. La musique, la bouffe, les gestes, même les têtes des gens ne sont pas tellement différents.
À l'approche des élections législatives du 22 mai au Sud, le rythme des négociations a baissé, ce qu'a regretté publiquement le président chypriote turc Mustafa Akinci. Mais à l'occasion de la Pâque orthodoxe au début du mois, son homologue chypriote grec, Nikos Anastasiades, a déclaré, je cite, « vouloir faire en sorte que 2016 soit la dernière année du désastre douloureux qui dure depuis 42 ans ».
Se loger à Londres tient toujours du parcours du combattant. La capitale britannique devrait construire plus de 50 000 logements chaque année et on est très loin du compte. Résultat, les prix de l'immobilier explosent. Le mètre carré frôle les 15 000 euros dans le quartier chic de Kensington, par exemple. Alors pour payer moins cher, il faut s'éloigner ou s'adapter. Et beaucoup ont choisi la seconde option, comme le partage, et ça va très loin. Reportage Marie Billon.
Nous sommes dans le quartier historique de Rotherhithe, dans le sud-est de la capitale, dans un de ces immeubles dont la façade ne réjouit pas l'œil, grand bloc de béton. Il n'y a pas de couloir intérieur, tout est à l'air libre, les portes d'entrée des appartements sont comme alignées sur le palier d'un grand balcon commun.
Bonjour, bienvenue chez moi.
C'est ici que vit François, un Français de 26 ans, venu à Londres il y a 8 mois pour apprendre l'anglais et goûter à la vie britannique. Pour lui, avec ses petits boulots, la seule solution pour le logement, c'est la colocation. Mais en plus de partager un appartement assez vieillot avec 5 autres jeunes, il doit aussi partager sa chambre.
Et donc, par ici, voici ma chambre que je partage avec mon ami Alberto. Donc, c'est environ 15 mètres carrés qu'on partage tous les soirs. Voilà.
François et Alberto paient chacun l'équivalent de 460 euros par mois. Ils ne sont qu'à 10 minutes du métro et ça se paye. Mais surtout, François a eu de mauvaises expériences de partage de chambre avant de s'installer avec Alberto, qu'il connaissait déjà avant d'aménager ici.
J'ai fait deux autres maisons où on partageait tout. La première, j'ai partagé ma chambre avec un Ukrainien qui avait 40 ans, qui parlait très mal anglais. Et sur la deuxième maison, là, c'était un peu plus embêtant. Mon roommate qui était grec, et non seulement c'était dur de converser avec lui, mais en plus, il était assez désagréable. C'est une des raisons pourquoi, à Londres, on bouge assez souvent, quand même, malgré tout.
Le partage de chambres est de plus en plus commun à Londres. Il est même désormais possible de louer la moitié d'un lit. Ce sont ces draps qu'on partage alors avec un étranger. À 2 km de là, dans le quartier de Surrey Quays, près des anciens docks, Anton vit aussi en colocation. Il est suédois, il a 40 ans, ancien danseur étoile, reconverti en architecte. Il a toujours partagé sa chambre avec un autre jeune homme. Mais depuis un an, il est propriétaire d'un appartement tout neuf.
Bonjour.
Anton vit toujours avec son ancien coloc, même s'ils ont maintenant chacun leur chambre. Mais en fait, le logement n'est pas totalement à lui. C'est ce qu'on appelle le shared ownership, la propriété partagée. L'appartement d'Anton coûte 552 000 euros. Anton en a acheté 25%. Le reste appartient toujours à une housing association, une association pour le logement, qui a acheté la propriété au promoteur et à laquelle Anton paie un loyer.
Ici à Londres, les prix sont vraiment très très hauts. C'est la seule façon d'acheter quelque chose. Parce que moi, j'habitais ici à Londres depuis 16 ans. Quand on compte toutes les choses que j'ai payées par mois pour le loyer, c'est malade. C'est débile. Mais avant, on payait 1680 par mois pour deux personnes dans une pièce. Et maintenant, on paye 1150 pour une deux pièces. On a payé plus qu'on paye maintenant avec le prêt et aussi le loyer.
Anton paie donc un loyer sur les 75% de l'appartement qu'il ne possède pas. Pour lui, c'est un investissement à la hauteur de ses moyens, d'autant plus qu'il sous-loue une chambre, donc il a aussi cette nouvelle source de revenus.
On peut acheter plus de cher de l'appart, mais c'est pas par défaut, mais seulement trois fois. Par exemple, si je veux acheter 25% encore, ça va à 50%, et après 75%.
Impossible d'acheter plus des trois quarts de l'appartement, mais plus on est propriétaire, plus le loyer baisse.
Merci. Ciao.
Anton a acheté son appartement avec l'association LNQ. Elle détient d'autres logements à un peu moins d'un kilomètre de là. Plus près du métro, un deux pièces coûte 642 000 euros. Lucie Chitty est la directrice adjointe des ventes de LNQ.
C'est beaucoup plus abordable, ça facilite l'accès à la propriété, notamment parce qu'on n'a pas besoin de verser un apport. La plupart des gens commencent par nous pour ensuite acheter sur le marché classique, mais d'autres vont de propriété partagée en propriété partagée.
Certains estiment que la propriété partagée est le meilleur des deux mondes. Un achat raisonnable et un loyer limité au départ à 2,5% de la partie qui n'a pas été achetée. Mais d'autres disent que c'est le pire des deux mondes. Les responsabilités d'un propriétaire tout en conservant la crainte persistante des loyers qui montent, même si l'augmentation est indexée sur l'inflation et la perspective de n'être jamais totalement propriétaire de son bien.
Mais où est donc passé le crâne de Mimar Sinan ? Non, ce n'est pas le titre d'un roman policier, c'est une affaire qui embarrasse jusqu'au sommet de l'État turc qui a lancé une enquête pour retrouver le crâne du plus célèbre architecte de l'Empire ottoman, disparu dans les années 30. Anand Lauer nous appelle d'Istanbul.
Il excellait tant dans son art qu'il en porte le nom, aujourd'hui encore dans les livres d'histoire. Mimar Sinan, littéralement Sinan l'architecte, fut sans conteste le plus grand des architectes ottomans. Pendant une soixantaine d'années, en plein XVIe siècle, celui de l'apogée des sultans, Mimar Sinan a signé près de 500 chefs-d'œuvre répartis aujourd'hui dans toute la Turquie, le Moyen-Orient et les Balkans. Soliman le Magnifique, Selim II puis Murad III n'ont cessé de remplir ses carnets de commandes. À sa mort, en 1588, on a enseveli sa dépouille près de la mosquée de Soliman dans une sépulture qu'il avait lui-même dessinée. Il y est reposé en paix jusqu'à ce qu'en 1935, dans la toute jeune République, une équipe de scientifiques n'exhume ses ossements. Le but de l'opération, pilotée par la très sérieuse Société d'histoire turque, était de prouver, grâce à des mesures du crâne, que l'architecte était bien turc, à une époque où les théories raciales, et notamment la craniométrie, étaient considérées comme une manière valable de déterminer l'ethnicité. En réalité, Mimar Sinan était d'origine arménienne, de Cappadoce, mais il avait subi ce qu'on appelait le defshirme. Ce système de recrutement forcé opéré par les armées du sultan consistait à réquisitionner des garçons de familles chrétiennes des Balkans et d'Anatolie. Envoyés à Constantinople, ils étaient convertis à l'islam pour être élevés comme des Turcs et rejoindre l'élite militaire ou civile de l'Empire. En 1935, les pseudo-scientifiques ont bien évidemment conclu que Sinan était turc. Mais dans leur enthousiasme, ils ont apparemment omis de replacer le crâne à l'endroit où il reposait. C'est en tout cas ce que vient d'admettre le premier ministre turc, qui a dénoncé une tache noire dans l'histoire de la Turquie et une insulte à la mémoire de l'architecte. Il a nommé un groupe d'experts pour retrouver le précieux crâne. Seront-ils plus chanceux que les dizaines d'historiens qui s'y sont essayés ? En tout cas, certaines institutions, telles que la faculté d'anthropologie de l'université d'Ankara, se sont déjà empressées de faire savoir que le crâne de Sinan n'était pas sur leurs étagères.
De la concurrence pour le site archéologique de Stonehenge, le décor n'a pas grand-chose à voir avec les grands sites britanniques. À Argimusco, les menhirs et dolmens sont éparpillés à travers les vallées qui s'étirent sur les flancs de l'Etna, le volcan sicilien. Cécile de Barge.
Pendant des siècles, le site d'Arjimousko a été considéré comme une bizarrerie de la nature. À plus de 1100 mètres d'altitude, les grands blocs de pierre arrondis qui se dressent sur les hauteurs des monts Nébrodis ont souvent étonné. C'est le vent et l'eau qui leur ont donné cette forme, répondait-on alors aux curieux. Pas complètement faux à l'origine, sauf qu'à l'âge de bronze, le site aurait été utilisé comme une immense nécropole. Il a fallu attendre les années 90 et une série de travaux sur l'astronomie pour découvrir qu'Arjimousko serait en réalité le plus grand complexe mégalithique du monde et que certains des blocs de pierre taillés par le vent ont en fait été retravaillés par les hommes. Les théories des chercheurs ne s'accordent pas toutes et aucune fouille archéologique n'a été réalisée pour permettre de dire avec certitude ce qui se passait à Arjimousko il y a des siècles. Alors intéressons-nous d'abord à la disposition des mégalithes. Ils seraient en fait alignés sur les étoiles. Et puis, il y a la forme de certains menhirs. L'un d'eux ressemble à un aigle aux ailes déployées, dont le bec regarde vers une autre nécropole découverte à quelques dizaines de kilomètres de là. Il y a aussi ces menhirs appelés féminins et masculins qui se font face et qui encadrent le lever du soleil le matin. Deux immenses pierres verticales dont la forme fait penser aux deux organes reproducteurs, symboles de la fertilité et de la vie. Arjimousko était-il seulement un site d'observation des étoiles ou bien aussi un lieu de rite sacré? Quelle que soit la réponse, elle est auréolée de mystère et fascine.
Écoute ce disque. Écoute ce disque.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine.
Alors ce vendredi, vous nous proposez un joli tandem scandinave.
Et oui, un groupe dénommé Lima qui réunit le percussionniste finlandais Tatu Ronko et trois membres du groupe danois Efterklang. Le premier album de cet étonnant attelage paraît ce printemps et a été conçu selon une méthode plutôt originale. Les quatre musiciens ont écrit ces chansons en Finlande, à Berlin, à Istanbul et à Madère, durant des résidences de 4 semaines dans chaque ville, en prenant soin de laisser leur écriture s'imprégner du son et des ambiances du lieu où ils se trouvaient. Chaque résidence se terminait par un concert du quartet, dévoilant les titres ainsi écrits devant son public. Fort de ce petit stock de chansons patiemment rodées, Lima a enregistré son premier album d'une traite à Berlin en 3 jours, dans des conditions live et sans post-production aucune. À l'arrivée, le résultat est aussi beau que le voyage.
Sur l'extrait du nouvel album du tandem scandinave Lima, Accent d'Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Guillaume Munier et Jérémy Besset. Restez à l'écoute sur RFI. Dans quelques instants, un peu de patience, les infos.
Le goût du monde.